Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Danseman,
bonjour
Patrick Mahé, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On est ravis de vous recevoir, vous êtes le nouveau patron de Paris Match, alors l'ancien nouveau patron parce que c'est un magazine que vous connaissez très très bien, vous êtes un grand homme de presse, hein. Vous avez dirigé Paris Match pendant de nombreuses années, vous avez également dirigé Télé 7 jours et vous êtes revenu à la direction du magazine il y a quelques semaines tout juste, vous êtes venu ce matin avec le numéro qui est en kiosque aujourd'hui, Adieu au Bogdanov. C'est un très très beau document que vous publiez, une enquête de François Delabarre qui est très émouvante parce qu'on parle des derniers moments, on parle de leur vie, enfin vous nous en parlerez un petit peu mieux. Et puis on va dire tout ce qui est Paris Match, des hors-séries, cet album également 1950-2000, 50 ans de vie et d'émotion. Et c'est vrai, c'est l'album des Français et que c'est vrai quand on le feuillette, on se rend compte que Paris Match, c'est la vie des Français.
Oui, et puis c'est, comme vous le dites très bien, c'est, en fait, on le sent, c'est intergénérationnel.
Oui.
Quand on dit l'album des Français 1950-2000, on s'adresse évidemment à un public ciblé qui est celui qui les a vécus, mais c'est aussi un livre de transmission. Parce que ce soit les parents, les grands-parents, les enfants ou les petits-enfants, ils découvrent un demi-siècle en fait, d'histoires qui ont concerné leur famille, qui ont concerné leur pays, et par l'image, par le texte, les deux, découpés en 14 thématiques qui font qu'on revisite entièrement pendant 50 ans ce qu'a été la vie de ce pays.
Oui, on retrouve la famille de Monaco, les familles princières, les stars, l'habitat des Français. Enfin, on va en reparler dans un instant, Gilles, la question du jour.
La question du jour, elle concerne notre invité, évidemment Paris Match. Alors, le Paris Match, peut-être d'avant, comment était-il, comment vous percevez Paris Match? On vient juste de poser la question à nos auditeurs. On leur a fait trois propositions. Le photo-reportage, c'est un des rares magazines où la photo est évidemment très présente. Un magazine People ou un hebdo d'actualité. Pour l'instant, pour nos auditeurs, c'est un magazine People à 77%. Ensuite, le photo-reportage à 18% et un hebdo d'actualité seulement 5%. Mais on vient juste de mettre la question en ligne.
C'est un petit peu tout ça, Paris Match, non ?
C'est d'abord ce qu'on appelle en anglais, évidemment, un peu d'anglais pour une fois, rarement, un picture magazine. Pourquoi ? Parce que ce magazine a été créé un peu dans le style de Life aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un magazine qui est fait pour raconter des histoires. Ces histoires sont portées par des personnalités ou par des anonymes quand des drames explosent, par exemple. Et donc, c'est tout à fait un journal d'images. C'est aussi un grand journal de photoreportages, car les photoreporteurs ont payé gravement le tribut à l'actualité. Nous en avons fait d'ailleurs un numéro hors-série.
Héros et reporters de guerre.
Héros et reporters de guerre, dans lequel on voit les reporters qui, d'ailleurs, en première ligne, se sont exposés depuis, on va dire, les années de la guerre d'Indochine jusqu'aux années des guerres actuellement en Libye, par exemple, ou en Syrie. Ceux qui sont tombés récemment, je pense à Jean-Pierre Pedrazzini, un des héros des années 50, jusqu'à un photographe connu qui travaillait aussi pour nous, souvent Rémi Hochelik, qui est tombé en Syrie. Bon, donc le photoreportage est extrêmement présent. Et on le voit bien encore dans le numéro de cette semaine que vous avez évoqué, parce que le reportage qui a été fait en Birmanie.
Un Noël en enfer.
C'est la destruction de villages catholiques, d'ailleurs, des Karenis. Il y a les Karen et les Karenis, à ne pas tout à fait confondre dans les ethnies de Birmanie. Bon, ben là, les photos sont saisissantes. Il fallait être là pour les prendre. On voit ces villageois rassemblés, dont certains vont être conduits à des exécutions capitales. C'est affreux. C'est du grand reportage. On fait aussi du grand reportage différent dans l'Iran d'aujourd'hui, par exemple, où on découvre même des stations de ski aux portes de Téhéran. Absolument. Ça, c'est du grand reportage.
Mais de nos jours, c'est des photoreporters français ou c'est plus de l'achat de photos à l'étranger, où il y a encore une équipe en France ou des agences françaises qui sont encore vives.
C'est les deux. Le but numéro un de la rédaction, c'est de présenter des choses qui sont plus insolites que d'autres, qui sont plus originales. Donc, on va chercher toujours dans le monde entier ce qui peut saisir, ce qui peut saisir et capter l'intérêt des gens. Je pense, par exemple, aux Twin Towers, quand elles sont tombées. Évidemment que là, c'était des photographes du monde entier et beaucoup d'Américains, mais aussi des Français présents. Notre correspondant permanent à New York à l'époque, Romain Clerjat, a été pris dans une tempête de suie de tout ce qui est tombé des Twin Towers. A fait ses photos avec ses petits smartphones et du coup, ça devient des documents rares. Donc c'est un ce journal est ouvert à tous ceux qui peuvent apporter ce fameux poids des mots quand ils ont des choses à dire, et ce fameux choc des photos, qui peut parfois être du chic des photos d'ailleurs, et ce qui concerne les personnalités.
Absolument, et à découvrir encore une fois dans ce numéro des photos incroyables des Bogdanov en particulier, et ce récit qui est fait de
leur
fin de vie.
Alors ce récit, on peut en parler, parce qu'en effet, c'est vrai que François Delabarre était très au fait de la maladie, quand les Bogdanov ont été atteints, il les fréquentait, il avait fait un peu d'alpinisme avec Igor, peu de temps avant, et donc il a su très bien, très rapidement, le 11 décembre ou le 10 décembre, quand Igor est sorti fiévreux d'une pharmacie, quand il est resté en contact uniquement avec son frère Grishka, c'était tout, qu'il avait fermé les écoutilles pour que plus personne ne l'approche, alors que sa sœur Véronique venait à Paris depuis Bordeaux lui apporter son premier manuscrit, son premier livre édité. Il y avait une fête de prévu, ça a été annulé.
Ouais.
Igor a été hospitalisé le lendemain de Grishka, qui l'a convaincu de venir à l'hôpital. Ils étaient à deux chambres d'écart et ils communiquaient entre eux.
Incroyable.
Entre eux, à deux chambres d'écart.
C'est très fort,
Et à un moment même, Grishka a fait savoir qu'il avait un plateau repas qui n'allait pas. Et Igor lui a dit, mais je te fais porter le mien. Trop tard, il était déjà intubé.
Ouais.
François Delabarre a vécu...
Donc il y a un des frères qui a su que l'autre frère était intubé.
Alors ça,
c'est la question que je me suis posée.
Puisque en fait, il y a eu cette histoire de plateau repas.
Plateau repas qu'il n'a pas pu prendre.
Donc du coup, bien entendu, c'est Igor qui l'a apporté à Grishka, qui est parti le premier. Il est parti le 28 décembre, Grishka, et Igor, 6 jours plus tard. Et donc, ce récit est incroyable, parce qu'on parle même de l'immortalité qu'ils essayaient de cultiver eux-mêmes, un peu comme des mutants qu'ils étaient devenus. Donc vous parliez des photos, on les a choisies à plusieurs époques pour montrer leur évolution physique d'ailleurs.
On en apprend beaucoup aussi sur leur famille, j'ignorais qu'ils avaient d'ailleurs des frères et des sœurs. Les photos, le poids des photos, il y a cette photo incroyable de Ghislaine Maxwell qui est à Balmoral. Alors il y a les deux photos, la reine d'Angleterre avec sa cousine et pratiquement dans la même position, Epstein. Comment on trouve des photos comme celle-là ?
Ce reportage, il est d'abord extrêmement saisissant. Ça fait un certain temps que nous étions dessus. Nous avons un bureau à New York avec un correspondant qui s'appelle Olivier O'Mahony. Qui est très très vigilant et qui travaille énormément là-dessus. Donc ça fait un moment déjà qu'il cherchait ces photos. La plus étonnante du reportage, c'est celle qui fait l'ouverture, où on voit Ghislaine Maxwell dans l'avion privé qui s'appelait... Le surnom de l'avion privé était le Lolita Express.
Incroyable.
Sur l'expression, quand même. Lolita Express. Et on voit Ghislaine Maxwell qui masse le pied d'Epstein dans cet avion.
Entre ses seins.
C'est une photo qui résume tout. En fait, s'il n'y avait qu'une photo qui devait tout résumer, avant même qu'on sache comment Ghislaine Maxwell pervertissait en fait les jeunes filles au service d'Epstein, cette photo résume tout.
Ça,
c'est une chouette photo d'ailleurs.
C'est quoi une bonne photo pour faire la une de match?
Oui, puis comment on l'a choisie?
Je crois
que c'est votre obsession permanente, non, la une?
C'est une obsession permanente. Dès qu'un numéro est bouclé le mardi à 13h, par exemple, en gros, la question de 13h01, c'est mais quelle couverture pour la semaine prochaine? Alors évidemment, quand on regarde l'histoire des couvertures, on sait que les records de couverture de vente ont été établis il y a déjà longtemps. Par exemple, le voyage de la reine d'Angleterre que vous évoquiez à Paris après son couronnement en 57 a battu tous les records. Mais match à l'époque, c'était la télé. Il faut se dire que c'était la télévision, quelque part.
Oui.
C'était le poids de l'image, justement. Cette fulgurance, ça fait 2,231,594 exemplaires vendus. C'est quand même énorme. En 70, naturellement, les obsèques du général de Gaulle. Bon, mais ça, ce sont les événements d'actualité. Pour le reste, il faut que les gens aient des choses à dire.
Oui, pardon, on va vous donner un verre d'eau.
Il faut que les gens aient des choses à dire pour justifier
Mais la une en elle-même, elle est évidemment décisive sur les ventes, parce que d'un numéro à l'autre, vous voyez des fluctuations très très importantes.
La une est un point d'appel.
Ouais, ouais. Celle de Nicolas Hulot, par exemple, parce que vous avez fait un très gros coup avec Nicolas Hulot il y a quelques semaines. Il y avait eu Éric Zemmour, mais vous n'étiez pas encore,
non,
je crois.
C'est différent. Ouais.
C'était. Ouais. Vous l'auriez faite, celle d'Éric Zemmour ?
Mais oui. Oui. Absolument. Oui, ouais. Absolument. Je ne vois pas pourquoi nous ne l'aurions pas faite. Il y avait une bonne explication sur sa conseillère particulière qui était donc qu'il fallait présenter, et ça devenait un élément important du débat actuel. Bon, ben oui, bien entendu.
Ça va vous coûter
maintenant,
cher.
On ne sait pas, ça, on verra bien.
Vous vous en fichez ?
On ne se fiche jamais de rien, ouais. Bon, ce n'était pas l'objet, en fait. Ouais. L'objet, c'était de donner une information, et cette photo était très intéressante. Mm. Donc, je ne sais pas si je l'aurais publiée. Oui, je pense que oui, ouais. Même quasiment certain. Pour Nicolas Hulot, pour répondre précisément à la question de Valérie, expert, eh bien, oui, ça a bien marché. Mais il y avait vraiment un sujet de grand intérêt qui était... l'omerta sur ce genre d'affaires, qui ne concerne pas que Nicolas Hulot d'ailleurs, il y en a d'autres, mais en tout cas celle-là était particulière, et la photo était très intéressante. Pourquoi ? C'était un gros plan, un gros plan qui donnait de la lecture. Nous avions le choix, alors c'est intéressant pour répondre à votre question précisément, nous avions le choix entre une photo expressive dans laquelle on peut lire des choses, un regard, par exemple, là c'était le cas, ou une photo... où il était surpris, par exemple, dans les rochers en Bretagne, à Saint-Lunaire, en train de réfléchir, de penser à ce qui lui arrivait, etc. Bien entendu, la tentation aurait pu être de prendre cette photo-là, parce qu'elle était élément d'information intéressant d'un gars paumé, perdu seul, dans ses rochers, etc., seul. Nous avons préféré le gros plan pour la lecture de la photo, en se disant que, par exemple, les femmes directement concernées par ce sujet pouvaient se dire « Mais pourquoi ce type avait-il ce pouvoir de séduction en dehors du pouvoir tout court ?» Donc il y avait une lecture de la photo.
Mmh. Est-ce qu'il y a des photos secrètes dans la photothèque de Paris Match qui n'ont jamais été publiées pour des raisons politiques ou autres ? Est-ce que vous avez connaissance de photos qui sont des petits trésors ?
Il y a des trésors, effectivement, qui sont depuis longtemps ce qu'on a au coffre, depuis des années. Alors, ça peut être dans des faits divers, par exemple. Ça peut être des victimes dont les photos ne sont pas publiables, mais qu'il a fallu bloquer pour éviter peut-être que d'autres même s'en emparent ou les exploitent mal.
Et des photos politiques ?
Il peut y en avoir, il y en a un peu dans toutes... Mais il y en a dans tous les domaines, dans la vie. Paris Match, c'est le reflet de la vie. Ouais. Donc la politique est présente, le grand reportage est présent, les faits divers sont présents, le sport est présent.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit on n'y va pas ?
On n'y va pas quand...
Parce que c'est la maîtresse ou parce que...
Quand, par exemple, quand l'élément d'information est contestable, peut être contesté, peut porter atteinte ou... porter préjudice, là oui, il y a une réflexion, c'est normal. Donc on peut bloquer des photos, bien sûr.
Que c'est du voyeurisme pur.
Quand c'est du voyeurisme pur, exactement.
Voilà. Et qui décide de la couverture au final ? C'est vous ou c'est une décision collective de la rédaction ?
Moi, je m'appuie sur un directeur adjoint de la rédaction au service photo, Guillaume Clavière, qui fait partie d'une grande chaîne de responsables du service photo. Sur Caroline Mangès, qui est la directrice de la rédaction, et qui a 30 ans de maison, et qui sait de quoi elle parle. Donc, nous avons une discussion préalable. Le directeur artistique, Cyril Clément, nous propose plusieurs projets de couverture. Et naturellement, j'ai forcément par ma fonction ce qu'on appelle le final cut.
Le final cut, voilà. Donc, il y a une grosse responsabilité.
Qu'est-ce qu'il faut changer pour que le print existe toujours face aux ordinateurs et face aux tablettes et aux journaux qu'on n'achète plus forcément ?
Mais c'est une entreprise qui n'est pas incompatible. Le print durera l'expression, l'exploitation des sujets photographiques en particulier, et le numérique va se développer parallèlement à condition de le nourrir également de bons sujets. Il n'y a pas, par exemple, le web n'est pas la division 2 de l'information, n'est pas la ligue 2. Au contraire, c'est un équilibre
vous
à trouver.
Dites pas, je le garde pour le print, c'est trop fort.
Non, justement, c'est ce qu'il faut éviter. Il faut que
c'est très rare, ça.
Sur un magazine hebdomadaire, comme le nôtre, il faut trouver des angles. Mm. Des angles particuliers qui durent, qui ont une durée de vie. Sur le web, vous êtes plus dans le côté immédiat, dans l'instantané. Donc, un instantané qui risquerait de ne pas pouvoir connaître une bonne évolution dans la semaine doit passer sur le web à ce moment-là, avec la même priorité et peut-être créer le même buzz que parfois un grand article peut susciter dans le print.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de revenir à Paris Match? Vous y avez été pendant les années Roger Théron, pendant 10 ans, hein,
16 ans.
5, 80,
de 81 à 96, avant de prendre Télé 7 jours.
Et oui, donc après vous avez pris Télé 7 jours. Vous étiez en charge, vous l'avez dit, de ces hors-séries, de cet album, que vous aviez toujours un pied, mais reprendre, de redevenir le directeur de Paris Match, c'était
totalement inattendu pour moi. Simplement, quand les gens de Paris Match, Olivier Royan en tête,
très bel hommage la semaine dernière à Olivier Royan.
Très bel hommage à Olivier,
Match,
qui était notre directeur, après Roger Théron, après Anna Genestar, m'a appelé pour les 70 ans de Paris Match. Les 70 ans, c'était donc il y a maintenant 3 ans. Et donc, il m'a dit, t'as la mémoire des années que les plus jeunes n'ont forcément pas. Tu étais dans le sillage de Roger Théron, de Michel Sola à la photo. Et si tu pouvais réfléchir à nos 70 ans. Et là, est né le projet de numéro hors série, développé, découpé par décennies. C'était tellement riche, en fait, ce patrimoine de déjà 70 ans d'existence. Vous savez que Life Magazine n'a pas résisté à ses 70 ans.
C'est
Que nous avons décidé de faire ces numéros hors série par décennie. La vie des Français des années 50, 60, 70, etc. Et puis après, nous avons fait un numéro spécial qui n'était pas prévu, que j'ai ici sous les yeux d'ailleurs, que je vais vous laisser, sur le secret des couvertures, qui est un sujet que vous avez évoqué.
Ce
secret des couvertures...
Parce que les couvertures de Match, c'est mythique.
C'est un très grand, un numéro plus ample en fait, qui raconte bien le secret des couvertures.
Vous en avez dans votre bureau
pas mal.
Vous les avez lesquelles?
D'abord, il y en a une qui est emblématique pour nous tous, ceux de toutes les générations, celle du numéro 1 naturellement, mais celle du retour de Roger Théron en 76, qui, après avoir quitté le journal pendant un septennat, lequel avait voulu se transformer en news magazine, ce qui n'était pas la bonne idée, on va pas concurrencer Le Point ou l'Express de ces années-là, eh bien c'est la photo de Mao Zedong. Quand Roger Théron arrive et que Mao meurt, instantanément sa première réaction est de changer tout de suite la couverture, alors qu'un sujet est prévu sur Monseigneur Lefebvre et les intégristes de l'Église catholique. Il met tout en l'air et il met Mao Tse-Tung, le journal qui était tombé à 400 000 exemplaires de vente alors qu'il culminait autour du million régulièrement, et remonté dans les 600-700 000 très très vite.
Qu'est-ce qu'il aurait pensé?
Donc, les grands faits divers aussi, pardon.
Oui, les grands faits divers.
C'est comme les grands faits divers qui ont suivi, par exemple. Je pense à l'affaire Mérine, au baron Empain enchaîné. C'est-à-dire, ce sont des scoops qui créent de l'émotion.
Colonna, plus tard.
Voilà, vous avez Jacques Mérine, par exemple, qui est complètement enfouraillé.
Il
a sa Kalachnikov, il a une grenade à la ceinture. Et bien là, c'est une histoire magnifique qui est très forte, où Isabelle de Wangen avait été lui arracher une grande interview qui parlait des QHS, par exemple. Donc c'était un sujet extrêmement sérieux, derrière l'image. On voit bien l'équilibre du poids des mots et du choc des photos à travers ce genre d'histoire.
Dans l'affaire Grégory, vous aviez La Roche sur son lit de mort
dans l'affaire Grégory. À chaque fois, vous voyez, à chaque fois, pour répondre assez précisément, j'espère, à vos questions, c'est que l'équilibre doit être là. Photo n'est pas suffisante, le texte n'est pas suffisant, c'est l'équilibre des deux qui fait Paris Match.
Qui a fait le plus souvent la une de Match?
Alors c'est une célébrité, le mot people étant extrêmement galvaudé de nos jours, je dirais que c'est quand même une grande célébrité qui est devenue un people, bien sûr, c'est Johnny.
Johnny
qui a fait 84 couvertures de Paris Match.
Je pensais que c'était la famille de Monaco.
Ça c'est différent. Les Royals, comme on les appelle maintenant, alors que les Royals font énormément aussi. Leur actualité est tellement variée, tellement riche, on le voit jusqu'à Meghan Markle aujourd'hui, par exemple, pour la famille royale anglaise. On n'a même pas besoin de les solliciter, ils font l'actualité tout seuls. Bon, actuellement, il y a beaucoup d'interrogations sur Monaco autour de Charlène, il y a des interrogations autour de l'avenir de Meghan Markle et du couple princier. Ils font l'actualité tout seuls. Alors, il faut être présent, naturellement, et raconter des histoires avec de l'information. C'est le cas pour les Bogdanov, vous le disiez tout à l'heure. Ouais. Le texte des Bogdanov est à la hauteur des photos.
Absolument.
Les photos sont à la hauteur du texte.
Il y a un plus, forcément, à chaque fois. Il y a un auditeur qui dit « Est-ce que votre invité constate une perte de liberté dans son travail ?» Réponse honnête, espérée. À savoir, est-ce que vous avez des pressions, plus de pressions qu'avant
Franchement, pour être honnête, je n'ai pas eu la moindre pression de quiconque. Personne ne me donne un coup de téléphone le matin du bouclage, la journée du bouclage, ou le matin de ce qu'on appelle un peu encore le repiquage. La liberté est totale.
Rebondir sur notre auditeur, qu'est-ce que vous, et puis qu'est-ce qu'aurait pensé Roger Théron, sur la défiance des journalistes qu'on ne croit plus?
Mais ça, cette défiance, elle remonte déjà à plusieurs années. Je crois qu'il y a eu beaucoup... D'abord, il y a les réseaux sociaux qui sont, que moi j'appelle parfois... Les réseaux asociaux font beaucoup de dégâts par rapport à ça, parce que chacun est dans une libre parole, une libre expression, mais quelquefois qui n'est pas maîtrisée, qui va trop loin. Dans la presse, auparavant, vous aviez, vous avez toujours eu quand même des rédacteurs en chef, des rédactions en chef, qui savaient maîtriser justement les sujets, alors que par ce déferlement un peu d'informations ou de déformations instantanées, on s'y perd. Mm. On s'y perd. De plus, les commentaires sur des commentaires rajoutent aux commentaires, et du coup, on n'est plus toujours dans l'information, mais dans l'excès de commentaires. Mm. C'est ce qui fait que la parole des journalistes est parfois dévaluée. En revanche, la loi du terrain, justement, doit rendre à la presse, doit rendre aux journalistes la loi du terrain, le témoignage. Je prends l'exemple du témoignage pendant les hôpitaux. Oui. Bon, ça, c'est pas du commentaire. Non. C'est une envoyée spéciale, Gaëlle Lejeune, qui va au CHU de Toulouse, qui passe ses fêtes de Noël, qui passe 8 jours, et qui voit et qui constate et qui prend les paroles des gens directement concernés, les soignants, et qui les reproduit.
Mais comment être sûr que c'est pas fait pour faire plaisir à Macron ?
Oh, ça n'a aucun rapport, ça. Macron, on n'est pas concerné par Macron dans cette histoire. On est concerné par.
C'est ce que dit notre auditeur, d'être appelé, d'être manipulé par le pouvoir.
Je réponds à votre auditeur, qui a bien fait d'ailleurs de poser la question, parce que ça permet d'y répondre. Eh bien non, naturellement que non. On ne peut pas imaginer, quand on boucle le journal le lundi, que le président de la République va dire ce qu'il a dit hier matin aux Parisiens. Mm. Nous, on a bouclé le journal depuis le lundi. Et on est depuis 8 jours dans l'hôpital de Toulouse en train de travailler sur les soignants, sur les antivax ou sur les non-vaccinés, pour pas faire d'amalgame non plus entre les antivax et les non-vaccinés, c'est pas la même chose.
Vous avez passionné nos auditeurs et nous aussi, on a zappé le zapping, comme on dit, parce qu'on a commencé à parler. Quelle est l'interview dont vous êtes le plus fier, la photo la plus marquante pour vous, il y en a, écoutez, moi je vais conseiller à nos auditeurs déjà d'acheter le numéro de Match, qui est de Paris Match, qui est en kiosque, parce que c'est un numéro très, très riche, qui est en kiosque aujourd'hui, très riche. Cette photo on est à la radio, mais il y a une photo qui est extrêmement forte. De cette infirmière. Non, c'est la chef, c'est la médecin anesthésiste qui a passé la nuit du réveillon. Ah, oui. Elle a sur la tête un cotillon, en quelque sorte, et elle se masque la main parce qu'elle est épuisée. Et puis, il y a ce témoignage très fort, François de la Barre, sur la vie en général des Bogdanov, qui étaient-ils, et puis leur fin de vie. Et puis, ces numéros, alors le secret des couvertures, c'est un régal, parce qu'on repasse 70 ans de couverture, et ça nous ramène tous à notre quotidien. Il y a les hors-séries, la saga Rolling Stones, Héros et reporters de guerre, l'éternel Belmondo, là aussi. Alors ça, ces hors-séries sont très chouettes, parce qu'il y a du texte, mais il y a des photos magnifiques. Ah oui,
des archives vives, là.
Et puis, bravo pour cet album des Français.
Si vous 50 avez, ans de vie et d'émotion.
Chez Hors Collection. Oui, parce que c'est de l'émotion, quand on revoit certaines de ces photos. C'est l'évolution de notre vie à tous.
Puis, si vous êtes fan de whisky d'Elvis Presley, vous allez sur Internet chercher des livres de Patrick Mahé.
Ah oui,
vous pouvez vous acheter
les livres
de Elvis Presley. D'Elvis. Donc il n'y a pas que Paris Match, il y a aussi un peu de vie privée.
Merci beaucoup Patrick Mahé d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve, nous, dans un tout petit instant. Merci à vous. Avec vous, à tout de suite.